Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur les ondes de fréquence 7, la radio décalée, pas pareille et différente, et vous écoutez l'émission mensuelle Drôle de Dame. Alors, cette émission aujourd'hui portera exceptionnellement sur les élections européennes, puisque nous sommes le mardi 7 mai 2024, à exactement 32 jours des élections européennes, dont on méconnaît ou remet souvent en question l'intérêt, considérant qu'elles ne servent à rien, car les instances européennes sont éloignées de nous. On imagine très clairement que seules les élections nationales et municipales comptent. Alors on va s'interroger là-dessus et discuter là-dessus en se demandant d'où cela vient-il, qu'est-ce qu'il en est réellement, est-ce qu'on peut considérer que les instances européennes ne servent effectivement à rien, quels sont les rôles des instances européennes, des députés européens, et quand même, est-ce qu'ils n'ont pas un impact sur notre vie quotidienne? Alors, avant de passer la parole à tout le monde autour de cette table, je voudrais quand même revenir sur une idée reçue selon laquelle les gens ne se préoccuperaient pas du tout de la politique. Alors, effectivement, on peut se poser la question de savoir comment ils le peuvent, quand précisément il n'y a jamais d'informations sur ce qui rend possible une démocratie représentative, à savoir justement déjà... la campagne d'inscription sur les listes électorales et donc la possibilité de pouvoir aller voter. Alors en effet, hein, on est allé interroger des personnes et selon celle-ci, une personne sur deux en moyenne déclare ne pas savoir qu'il y a une élection européenne en juin. Et on sait désormais que 12 millions de Français sont mal ou pas inscrits sur les listes électorales. Alors la question de la résignation est posée. Ou la mâle ou mauvaise information. On aurait apprécié par ailleurs que le gouvernement justement mette en place des spots publicitaires rappelant l'existence de ces élections et donc rappelant les démarches à suivre pour s'inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes.
Alors du coup, bonjour.
Bonjour.
Savez-vous qu'il y a une élection le 9 juin prochain ?
Non.
Non. Alors du coup, le 9 juin prochain, on va aller voter pour les élections européennes.
Eh ben merci, parce qu'en fait, je le savais pas, parce que j'essaie d'être en dehors des médias, voilà, et ça m'intéresse beaucoup. Déjà, merci, en fait.
De rien. C'est c'est important, c'est une élection qui va être qui est majeure, qui est très très importante et souvent sous-estimée par les citoyens français et par les médias.
Oui.
Du coup, je voulais savoir, du coup, est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales ?
Oui.
Oui. Donc ça, c'est super. Et du coup, est-ce que vous comptez aller voter à ces élections ou pas ?
Oui, grâce à vous maintenant, oui.
Et du coup, quand vous allez voter, quelle est la raison qui va vous amener à aller voter ? Qu'est-ce qui vous, dans votre tête, vous dites, voilà, faut que j'aille voter, et c'est cette raison-là qui fait que aujourd'hui-là, je dois aller voter, c'est important.
Bah parce qu'en fait, on doit le faire dès qu'on a le droit de vote. Enfin, c'est la seule, enfin, c'est une manière d'avoir. On fait tous partie de l'action. C'est nous qui choisissons. Donc en fait, notre voix compte autant qu'une autre, et c'est la somme de toutes ces voix qui déterminera l'élection.
Et il y a, est-ce que au-delà de ça, quand je parle d'une raison, est-ce qu'il y a pas, moi il y a des raisons, par exemple les guerres qui se passent en Europe ou aux frontières de
mais
l'Europe.
Mais tout est politique.
Tout est politique.
Tout est politique. Donc en fait, nos vies sont politiques, nos vies sont sociétales, on fait société, donc à partir de là, toutes les raisons sont bonnes.
Eh ben super, ben je vous remercie.
Merci.
Très bonne journée à vous.
Merci.
Bonjour.
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 Savez-vous qu'il y a une élection le 9 juin prochain ?
Oui.
Oui.
Êtes-vous inscrit ? Vas-y.
Oui, oui, on est inscrit sur les listes électorales.
Moi aussi, d'accord. Ok. Et si vous allez voter, je suppose que vous allez voter, qu'attendez-vous de vos députés européens ?
Alors.
Question difficile.
Qu'est-ce que j'attends des députés européens ? J'attends déjà... qui soit capable de se rendre indépendant de tous les lobbies qui gravitent à Bruxelles. Ça me paraît être la chose essentielle. Des lobbies économiques, industriels, agricoles. Déjà, c'est pas mal. Si déjà ils réussissent à se séparer de ces trois de ces trois moyens de pression, ils pourront déjà faire du travail. D'autre part, ce que j'attends des députés européens, c'est qu'ils remettent en cause la loi sur la loi qu'ils ont votée au Parlement européen sur l'immigration, parce que de toutes les façons, on aura besoin. Et c'est dommage de parler comme ça, mais je pense qu'on a l'Europe est un pays vieillissant, et de toutes les façons, quoi qu'on fasse, on aura besoin de migrants, parce que il y a notre population est trop âgée pour pouvoir connaître tous les services qu'on a actuellement sans que les migrants soient là pour nous aider et qu'ils soient accueillis dans des conditions
humaines,
respectables et dignes. Voilà. Qu'est-ce que j'attends d'autre? Et j'attends d'autres des députés européens qui se rendent compte qu'il y a des gros enjeux sociaux et écologiques. On pourra jamais sortir de là, de toutes les façons, dans le monde où on vit. Et ces enjeux écologiques et sociaux, il faut absolument qu'ils soient remplis. Et pour qu'ils soient remplis de façon humaine, il faut absolument que les lobbies n'aient pas leur mot à dire.
Absolument. Ben, merci beaucoup.
Alors, la jeune fille a dit « tout est politique », extrêmement intéressant, et donc du coup, c'est l'occasion pour nous de parler un peu plus précisément donc, de ces élections européennes. Et donc, quand allons-nous voter exactement, et quelles sont ces modalités? Vincent, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus?
Alors oui. Alors en fait, en France, les élections européennes, elles auront lieu le dimanche 9 juin. Mais certains pays, comme par exemple les Pays-Bas, votent dès le 6 juin. C'est pour respecter en fait les habitudes de chaque pays. En Europe, on étale les élections du 6 juin jusqu'au 9 juin. Donc les pays, en fonction de leur habitude, ils vont voter entre ces dates-là. Voilà. Et nous, du coup, on connaîtra les résultats le dimanche 9 juin quand tous les bureaux de vote auront fermé. Alors bien évidemment, il n'y a qu'un seul tour. Pourquoi? Car la règle en France est celle de la représentation proportionnelle. En France, pour obtenir au moins un siège, une liste doit avoir au moins 5% des scrutins. Si c'est le cas, elle obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix reçues. Si par exemple une liste fait 22,45% aux élections européennes, elle aura donc 23 sièges, soit 23 élus.
D'accord, merci Vincent. Donc c'est une élection à un seul tour. Merci beaucoup. Daniel, est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu du fonctionnement législatif et du rôle des institutions européennes ?
Alors, en ce qui concerne le législatif, il y a trois institutions qui travaillent sur les projets de loi. On a le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen. Le Parlement européen, c'est le lieu où il va y avoir des députés. Leur rôle va être, du point de vue législatif, de proposer des amendements sur des projets de loi que lui soumet la Commission européenne. Le Parlement européen n'a que rarement la possibilité de proposer des textes législatifs, mais en tout cas, elle a la possibilité de proposer des amendements aussi nombreux qu'il le souhaite. Ensuite, il vote et il contrôle le budget. La Commission européenne, c'est la deuxième institution, c'est un collège de 27 commissaires, un ministre par pays membre de l'Union européenne, qui est nommé pour 5 ans. Donc ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Cette commission, elle soumet des propositions de loi ou des directives au Parlement européen et au Conseil européen. Et c'est elle qui est chargée ensuite de veiller à l'application des textes qui ont été votés. C'est un rôle exécutif. Le Conseil européen, en dernier lieu, rassemble tous les chefs d'État, donc des 27 États membres de l'UE. La présidence de ce Conseil européen, elle tourne tous les 6 mois. Alors, quand une loi est proposée par la Commission européenne, le Parlement peut s'y opposer. C'est-à-dire que le Parlement joue vraiment un rôle très important. Un texte de loi ne peut pas passer sans le soutien du Parlement européen. Si la majorité des États membres est hostile à ce texte, il peut le rejeter définitivement après la deuxième lecture, puisqu'il y a une navette parlementaire qui fait qu'il va revenir au Parlement pour être amendé, puis repasse devant le Conseil et le Parlement. Mais s'il n'est toujours pas accepté, il sera carrément à la poubelle. C'est fini, il n'existera plus. Donc finalement, c'est très important d'avoir un maximum de députés engagés et combatifs pour nous représenter, parce que beaucoup de choses sont décidées au niveau européen. Et ces décisions ont un impact, on le sait très bien maintenant, hein, sur notre vie quotidienne. Par exemple, pour donner un petit exemple, malgré l'opposition conjuguée, c'est-à-dire qu'ils étaient bien ensemble pour être totalement au Conseil, donc au Conseil européen, on avait Macron, Mélanie et Orban qui étaient contre un projet de loi porté par la France Insoumise qui concernait les travailleurs des plateformes, ce qu'on appelle plus généralement les travailleurs ubérisés, hein, qui actuellement sont payés comme des salariés à la tâche. Ils n'ont aucun droit. Hein. Bon, donc ce projet de loi a été finalement voté. Et les travailleurs des plateformes vont maintenant être considérés comme des salariés. Donc c'est vraiment une victoire formidable pour ces travailleurs qui étaient vraiment extrêmement maltraités. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer.
Alors, Claude, oui, je crois que tu avais d'autres propositions d'autres positives.
Hein, en fait, j'étais en train de penser, on a de la chance à l'UE de ne pas avoir 49.3.
Oui.
Comme entrave. Pardon, c'était juste pour une petite boutade. Oui, donc le pacte d'austérité, les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg ont voté le mardi 23 avril la réforme des règles budgétaires de l'UE qui vise à garantir le redressement des finances publiques, ben voyons, des États membres tout en préservant les investissements. Les groupes socialistes, la droite et les macronistes ont voté l'austérité.
Bonjour, la cure d'austérité.
Ça va être horrible. Pour Manon Aubry, tête de liste insoumise, et Marie Toussaint des Verts, ces règles vont se traduire par une casse sociale et écologique sans précédent. Les écoles, les hôpitaux, la protection sociale et la transition écologique sont sacrifiées. Pour la France, donc pour nous, on va encore se serrer la ceinture au niveau des 71 milliards d'euros d'économie.
71 milliards, ça fait beaucoup de services publics cassés.
Deuxième exemple.
Oui. Le jeudi 11 avril 2024 a eu lieu le vote sur la suppression des tarifs réglementés de l'électricité. Dit comme ça, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. En fait, ces tarifs réglementés, c'était une sorte de verrou qui permettait à ce que l'électricité ne hausse pas les prix. Malheureusement, ce verrou saute et on votait donc contre la tête de liste Manon Aubry de LFI pour Renaissance Valérie Ayer, pour, ce qui est étonnant, Marie Toussaint des Verts, pour, ça ne l'est moins étonnant, Xavier Bellamy LR, abstention Jordan Bardella du RN et absent du vote, il avait piscine. Raphaël Glucksmann, PS, place publique. Les députés qui ont voté pour seront responsables de l'explosion de notre facture.
Bon, ok, donc cette cure d'austérité qui s'annonce, est-ce qu'elle peut quand même être contrée le jour des élections? Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre en vue de ces élections du 9 juin? Qu'est-ce qu'on peut attendre des eurodéputés pour espérer justement une Europe sociale? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre comme proposition qui pourrait porter sur les préoccupations salariales, sur les préoccupations écologiques? Alors Daniel, tu as quelques idées là-dessus?
Alors bon, ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui restent possibles et qu'on a le droit de continuer à rêver, et ça dépendra du nombre de députés qu'on aura bien sûr à l'Union européenne, au Parlement.
Le Parlement européen a quand même, comme tu l'as bien redit tout à l'heure, a son poids. Hein, et donc, des choses sont possibles.
Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Par exemple, mettre fin au dumping social, c'est-à-dire, au fond, mettre fin à la concurrence entre les salariés de l'UE. C'est quand même compliqué de laisser des emplois avec des salaires extrêmement bas concurrencer nos salaires à nous. Il y a des protections sociales et des droits. Donc on pourrait renforcer les droits des travailleurs. En fait, on pourrait commencer à construire une véritable Europe sociale. Ça serait vraiment tout à fait dans les projets possibles et intéressants. Un deuxième axe très intéressant et très important, ce serait de sortir du libre-échange, parce que de nombreux traités de libre-échange ont encore été votés. Et malheureusement, c'est une catastrophe au point de vue écologique et au point de vue aussi social, puisque les petits agriculteurs et les autres producteurs ne peuvent pas vivre dignement face à une concurrence déloyale, qui ne respecte pas les mêmes normes que nous, puisque elles ne leur sont pas imposées, qu'il n'y a pas de contrôle douanier qui permette de voir si ces productions sont respectent nos normes, et que donc, non seulement on mange mal des produits qui viennent du bout du monde, on les paye pas cher, mais on les paye très cher au niveau de la santé, par exemple, et de la vie des agriculteurs.
Et donc, sur le plan écologique, il y a aussi énormément de choses à faire pour pouvoir déjà commencer pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors, tu voulais dire quelques mots, Vincent, à propos justement d'une possible faisabilité, si j'ose dire, de la planification écologique européenne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
On pourrait orienter nos actions vers 100% d'énergie renouvelable. Dans les différents exemples que je vais avoir, c'est par exemple créer un pilotage public avec un investissement plus important. On va pouvoir aussi réorienter des millions d'euros investis dans le nucléaire, c'est en passant, c'est un gouffre financier, vers les énergies renouvelables. Il faut relocaliser les outils de production d'énergie renouvelable. Faut savoir que, par exemple, 3% seulement des panneaux photovoltaïques en Europe sont produits en Europe.
Oui, sachant que deux entreprises françaises sont prêtes à mettre la clé sous la porte à l'heure actuelle, alors qu'on fabrique des produits de très bonne qualité, hein, et que c'est la Chine qui remporte l'ensemble des marchés, pratiquement.
Alors, en effet, s'il n'y a que 3% de production en Europe...
Et puis, enfin, pour conclure... Le développement de transports en commun, notamment le rail.
Et en rouvrant les petites lignes, par exemple.
Ça, totalement.
Ok, ensuite, d'autres pistes possibles ?
On peut imaginer aussi une augmentation, de prévoir des augmentations de salaire, et de se dégager de ce plan d'austérité, ce serait possible, hein, parce qu'on peut contester cette règle dont Claude a parlé, avec ce 71 milliards qui seraient imposés d'économie à la France. C'est quelque chose qui paraît complètement fou. C'est énorme. Et il s'agirait, par exemple, de mieux partager les richesses, de taxer les super-profits et d'éradiquer les paradis fiscaux européens qui existent, hein, notamment l'Irlande, le Luxembourg, etc. Quoi. Donc, ce serait une manière de rééquilibrer les richesses.
Et à ce propos, d'ailleurs, l'ONG Oxfam a encore sorti un rapport qui montre que les inégalités salariales ne cessent d'exploser. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de prévoir un encadrement qui impose une sorte de cercle vertueux entre un employeur et son employé. C'est-à-dire, quand un employeur s'augmente, eh ben, il doit augmenter son employé, et imaginer une échelle de 1 à 20, pas plus. Un écart de 1 à 20, ce qui est déjà quand même conséquent. Mais ce serait déjà, entre guillemets, révolutionnaire, quand on sait que parfois les écarts entre un grand patron et son salarié s'élèvent à
1700 fois.
Voilà.
Voilà, 1700 donc, fois le SMIC. C'est
Et donc, il y a aussi l'histoire des lobbies.
Oui, ça pourrait être aussi un projet très, très important, comme le citait d'ailleurs l'interviewé dans le micro-trottoir, qui a mis le doigt sur un problème énorme à l'Union européenne. Il faudrait encadrer encore plus sévèrement les lobbies, obtenir une transparence totale, parce qu'à l'heure actuelle, elle est vraiment insuffisante. Considérez donc qu'il y a 70 lobbyistes par député européen, c'est-à-dire que chaque député a devant sa porte 70 lobbyistes. Donc c'est quand même énorme. Et que ces lobbyistes dépensent en moyenne 3 milliards par an pour faire pression. Ce sont des groupes de pression sur nos élus, hein. Donc ils ont vraiment énormément de moyens.
Si je peux donner un petit exemple pour que ça paraisse concret pour les gens.
Ouais.
Là-bas, les eurodéputés, ils ont une boîte aux lettres. Quand ils arrivent, ils ouvrent la boîte aux lettres, ils ont plein de cadeaux. C'est comme si au municipal, votre maire, vous arrivez chez vous, vous ouvrez votre boîte aux lettres, votre maire vous a offert un panier garni sur le parking, une belle voiture toute neuve, et la maison a été repeinte, et l'isolation a été faite.
Voilà, c'est un peu ce genre-là. C'est vrai. D'ailleurs, Mediapart a évoqué aujourd'hui un rapport, a dévoilé un rapport qui est sorti aujourd'hui 6 mai. L'ONG Transparency International, qui constate que 26% des eurodéputés bénéficient de revenus liés à des activités parallèles à leur mandat. Donc, pour environ par an 47 000 euros. Alors, si on fait ça par, si on mensualise, on est dans les 3 916 euros par mois supplémentaires.
Qui autour de cette table gagne 3 916 euros par mois ?
Et ça, c'est le supplément, parce que le député européen a déjà, et c'est le chiffre de 2021, du 1er juillet 2021, perçoit 7 145 euros nets après impôt mensuellement. Donc, ces eurodéputés-là qui reçoivent des suppléments, on peut dire, hein, qui se font payer en parallèle, des activités en parallèle, cet argent vient des lobbies, de sociétés privées ou d'État étrangers, toujours pour certainement faire pression, on ne voit pas pour quelle autre raison. Voilà, donc ce rapport précise que les principaux eurodéputés qui reçoivent cet argent se situent sur l'échelle politique, sur l'échiquier politique, à droite et à l'extrême droite, principalement. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de travail à réaliser pour arriver à contrôler ces lobbies, parce que c'est vraiment infernal, puisqu'on sait que ça représente une pression législative sur le législatif qui est vraiment inadmissible.
Donc on peut considérer quand même que ces élections européennes ont leur importance et que par conséquent, il ne faudrait peut-être pas être tenté par l'abstention, même si on a l'impression que ces institutions sont éloignées.
Et comme disait la jeune femme dans l'interview, votre voix compte. Le 9 juin, ma voix comptera autant que celle d'un capitaliste,
d'un millionnaire.
Donc il faut vraiment aller voter.
Et ouais. Puis, quand même, pour préciser, s'il y a des gens qui ont du mal à comprendre les programmes qu'on vous met dans les boîtes aux lettres, il y a des programmes adaptés sur Internet qu'on appelle faciles à lire et à comprendre, qui sont adaptés avec des mots simples pour les gens qui ont du mal à comprendre. Enfin, il y a pas mal de parties qui adaptent les programmes, qui les rendent faciles à comprendre, adaptés en langue des signes, expliqués de façon différente sur des vidéos et Internet. Donc, allez vous documenter. Il y a de quoi se documenter et de quoi comprendre cette élection, et de quoi la prendre en main pour vraiment changer notre avenir.
Et vous pourrez voir à ce moment-là qu'il est possible de changer beaucoup de choses qui auront directement un lien avec notre vie de citoyen français.
Tout à fait.
Et que des choses positives pourraient se créer au niveau européen qui n'existent pas à l'heure actuelle. On pourrait créer des coopérations, lancer des investissements, notamment sur la planification écologique. Il pourrait y avoir des choses formidables qui auraient avec des retours très intéressants en termes d'emploi, de création de richesses, etc. Donc c'est vraiment un lieu qui pourrait être très positif si on faisait cette construction sociale et cette coopération commune.
Bah, en particulier, comme tu viens de le préciser, sur la question écologique, il est évident qu'il faut qu'elle soit d'abord européenne pour qu'il y ait un impact très clair sur justement le dérèglement climatique que plus personne ne peut nier, avant même d'engager des actions locales. Ou pour le dire autrement, les actions locales ne seront absolument pas suffisantes pour pouvoir tenter de lutter contre ce dérèglement climatique.
Alors France Stratégie, justement, dit qu'il faudrait un investissement des pays européens de 2 points de PIB tous les ans, et que le retour sur investissement, comme on dit en termes financiers, mais ce n'est pas tant financier que social, et serait extrêmement rapide. Donc il suffirait de 2 points de PIB par an d'investissement de toute la communauté européenne pour réussir à faire cette transition écologique dans les meilleures conditions d'emploi, de richesse, etc. et de réussite.
Eh bien voilà, l'émission Drôle de Dame s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour ces échanges. Alors je remercie ici toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions, et je voudrais rebondir un petit peu sur justement encore une fois sur ce qu'a dit cette jeune fille, en disant que s'il y a bien un moment où effectivement chaque voix compte, chaque personne a la même valeur qu'une autre, et par conséquent a une valeur absolue d'ailleurs, eh bien c'est dans l'isoloir. C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut faire vivre notre dignité personnelle. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage et à bientôt.
Et bon vote. Et merci, et bon Sylvain. Vote. Merci beaucoup, Sylvain.
Merci, Sylvain.
Au mois prochain, pour la dernière. Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.